Sechet Sanhedrin sur les Agadot, Yolam Haba, Triat Habitim, ce que vous voulez. Et on est arrivé à la deuxième Mishnah du Perek Relek. Oui, car il s'agit d'une Gemara. Et pourtant, bien qu'il s'agisse d'une Gemara, eh bien, la première Mishnah n'a pas été suivie d'un enseignement talmudique, mais elle est suivie directement de la deuxième Mishnah. Donc nous, on a étudié en profondeur la première Mishnah. On rentre donc dans la deuxième, et en fait, la Gemara, après, va nous parler des deux Mishnayot ensemble. Alors, allons-y. La deuxième Mishnah nous dit « Shlosha melachim ve'arba idiotot en lahem chelek le'olam haba. » Quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Dans la Mishnah, juste avant, on nous avait dit que « Kol Israël esh lahem chelek le'olam haba ve'elu she'en lahem chelek le'olam haba » c'était trois personnes qui en sont six, mais c'était des catégories de personnes. Aomer en Torah min haShamayim, veAomer en Triat HaMetim min haTorah, veApikoros, aHoget HaShem beOtiyotav, tout cela. C'est-à-dire que Akore baSfarim haChitzonim lochesh al haMakah. C'était des catégories de personnages. Et là, on nous dit, bah en fait, on a cherché, on n'en a trouvé que sept. Sept bonhommes qui n'ont pas Chelek l'Olam Haba. C'est quand même très bizarre. Parce que s'il s'agit que de sept mecs, t'as pas besoin de me les mettre. Et s'il s'agit d'exemples, j'ai pas besoin non plus que tu me donnes des exemples. Tu m'as donné la catégorie, j'ai pas besoin que tu me donnes des exemples. Et là, ces sept personnages sont très particuliers. Parce que on veut nous montrer qu'est-ce qui se passe quand on est Baal Hashpa'a. Qu'est-ce qui se passe quand on est avec une position d'influenceur. Aujourd'hui, on est à l'aube des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quelqu'un qui a cette position d'influenceur, eh bien, il a une responsabilité beaucoup plus importante que Stam quelqu'un. Quelqu'un qui dit quelque chose qui est suivi par des milliers de personnes, des millions de personnes, ben c'est évident que son influence, elle est plus grande que celui qui connaît trois personnes. C'est pas shoot. Et donc, c'est qui ces gens-là? Arba melachim ve shlosha esra shlosha melachim ve arba idiotot. On nous parle de Yerovam, Achav ou Menashe. Rabbi Yehuda Omer, Menashe shlo chelek le'olam haba. Ça, ce sont les melachim. Donc c'est qui ces gens-là? Achav, Yerovam et peut-être Menashe. Vous aurez compris, il s'agit de 1. Melech Israël, 2. Celui qui a séparé la nation juive en deux, Yerovam ben Nevat, Achav, qui est le plus grand roi de la royauté d'Israël, et Menaché, qui est le roi qui a le plus régné dans la royauté de Yehuda. Seulement vient Rabbi Yehuda et nous dit, Menaché, non, lui il a, Chelek le'olam haba, parce qu'il a fait Teshuvah, Sheneemar, Vayitpalel alav, Vayater lo, Vayishma techinato, Vayeshiveu Yerushalayim le malchuto. Ah, nous dit nos sages, Amroulo le malchuto et shivu, lo le chayol amaba et shivu. Donc ici il y a une marloquette sur la condition de Menaché Melech Yehuda. Alors il va falloir qu'on comprenne un peu. On a dit ce sont des rois qui donc évidemment ont une dimension d'influence très importante. L'un a séparé le peuple juif en deux, donc pour lui il n'y a pas de débat. Yerovam ben Nevat, bien sûr que en lo chelek le'olam haba, puisque son œuvre dans sa vie a été le péroud, la séparation, alors que le'olam haba, c'est la notion de réunion. Et quant à Achav et Menaché, eh bien, ce sont les rois qui ont le plus fait fauter le peuple juif, l'un en Israël, l'autre dans Yehuda. Alors oui, c'est vrai que Menaché, Melech Yehuda, a fait tchouva. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais Menaché est le roi qui a le plus régné dans toute l'histoire de la royauté. Eh oui, combien de temps Menaché Melech Yehuda a-t-il régné? Il a régné 55 ans. C'est énorme. Plus que David, plus que Shlomo. 55 années de règne, et pendant lesquelles, pendant 22 ans, il a fait tout le mal possible. Mais après, pendant les 33 dernières années, il a fait tchouva. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose Bichlal la question s'il a part ou pas? Il a fait tchouva. Et là, il semblerait que la tchouva qu'il ait faite, elle est que par rapport à la malchut et pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on nous dit le malchuto eshivo. Et donc, dans la tradition juive, on est, allez, 2600 ans après Ménaché, et la Massoret Israël le voit toujours comme étant un rachat. Alors qu'a priori, on dit qu'il a fait Teshuva. C'est-à-dire ? Donc, on voit ici qu'il s'agit de gens qui ont une Mdat Hashpa. Et c'est qui les Arba Idiotot ? Eh bien, l'Arba Idiotot, c'est וארבעה אידיוטות, בלעם, ודואג, ואחיתופל, וגחזי. ולא אנקור, איסא ג'יפד נפורטקי. בלעם זה נביא. דואג ואחיתופל, סוסון ראשי סנהדראות. לשף דו סנהדרין. גחזי, סללב דו אלישע הנביא, כי אתה סנסה את סון סוקססור. דונק און אבידמון קאט פרסונאז' כי און אה אוסי, אין אינורם אפלואנס. אידיוטות, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas rois, mais ils ont une influence énorme. C'est-à-dire, donc on voit ici que ces sept personnages ne sont pas simplement des personnages, mais eux aussi, ils représentent quelque chose, si vous voulez. Ils représentent celui qui va avoir une influence sur le collectif.
Le Olam Haba, donc c'est pas que pour les Juifs, si je comprends bien.
Il a fait, tu poses une très bonne question par rapport à notre ami Bilam. Si on dit que Bilam, en lo chelek lo olam haba, ça sous-entend que bah, s'il n'avait pas été tellement Bilam, il aurait pu avoir. Nachon, il aurait pu avoir. Il aurait pu avoir à tel point que, eh bien, la différence entre Am Israël et les Umot HaOlam, c'est que toi, c'est built-in que tu as chelek lo olam haba, il faut vraiment que tu fasses énormément d'efforts pour ne pas l'avoir. Chez les Goïm, c'est pas built-in. Il faut faire des efforts pour l'avoir. Mais une fois que tu les as fait, tu l'as. D'ailleurs, entre parenthèses, oui.
Et tous ceux-là, les rois et les idiotes que tu as cités, en fait, on peut les relier par rapport aux trois catégories dont tu avais parlé la semaine passée.
Alors, est-ce qu'on peut les relier par rapport à Apikoros, à Omer Enteré, à Tameti, à Torah Ve'aomer en Torah min haShamayim. Alors.
Parce que là, en fait, t'as parlé que de Pilouk, en fait. T'as parlé de Mdat Hashpa et de Pilouk, mais on n'a pas fait le lien entre ce qu'on a fait la semaine passée.
Nahon, tout à fait. J'y viens maintenant. On a d'un côté celui qui est, c'est-à-dire les trois Melachim, ils sont dans un coin. Ensuite, on a les trois Idiotot juifs, et ensuite on a Bilam. Donc, on a les trois catégories. Mais réparti comme ça, les Melachim, ils te disent quoi? Ils te disent, eux, ils peuvent rentrer, si tu veux, dans la catégorie de En Torah min haShamayim. Alors, ils refusent de se soustraire à la Torah. Donc, pour eux, la Torah, Zelo Mechayev. Ensuite, on a les Shlosha Idiotot, juifs de chez nous, qui eux vont te dire En Techiat Ametim min haTorah. Je m'oppose à celui qui voit le Netzach se réaliser, comme par exemple Gehazi, qui s'est opposé à ce que Elisha ressuscite l'enfant de l'Aïcha Hatzorfit, et enfin Bilam Zahapikoros. Ok ? Donc oui, on peut rattacher aux catégories. Maintenant, Dorsher et Shuma Otamru, Sheyesh Lahem Chelek Leolam Haba pour les six juifs. C'est qu'au final, on les fait quand même rentrer dans le Olam Haba par la porte de derrière. Mais Maim Bilam. Alors tu me diras, bon, Bilam il est pas obligé, il est pas Kol Israël. Zenachon. Ou bechol zot, yash quand même mashu shel Olam Haba shel Bilam. Où est-ce qu'on peut retrouver quand même Ercheu Mashu du Olam Haba de Bilam? Est-ce que vous connaissez une histoire où on communique avec Bilam après sa mort? Eh bien oui. Dans le Talmud, dans Maseret Gittin, à la page 57, eh bien, on va nous raconter l'histoire de Onkelus. Onkelus, le converti, notre commentaire de Onkelus à la Torah, qui, avant de se convertir, a fait une petite séance de spiritisme et a ramené certains esprits ici pour pouvoir leur parler, leur demander s'il fallait s'attacher à Israël ou pas. L'Agma nous raconte qu'il a ramené Titus, il a ramené Jésus, et il a ramené Bilam. Et aux trois, il leur a demandé « Mi achi chashuv » et les trois, ils ont répondu « Israël ». Donc, sans rentrer dans le débat là-bas de cette Gemara là-bas, mais ça veut dire que « Er Sheu », il reste quand même quelque chose de Bilam après sa mort. Il n'y a pas d'annihilation complètement de l'être, même pour celui « Shein lo chelek le olam haba ». Et ça fait référence, eh bien, à cet enseignement, cet enseignement fondamental de la Torah, le bilti yidach mimeno nidach, c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que la mort est la fin du voyage. C'est anti-juif. Donc au final, il faut trouver un moyen, même pour celui qui a priori n'a pas de place, à le faire rentrer. C'est ce qui a marqué donc dans Shmuel Bet, je vous lis le verset en entier. Velo yissa Elohim nefesh vechashev machashavot lebilti yidach mimenu nidach. Ok? Donc, eh bien, on voit que même ces sept-là, qui n'ont pas, ils ont oui. Maintenant qu'on a étudié les deux Mishnayot, alors la Gemara va commencer à poser ses questions. Avant de rentrer dans les Haggadot, elle va commencer à poser des questions. Et la première question, c'est « Vecholkach lama ?» La Gemara dit « Tant que ça, pourquoi ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? La sentence paraît extrêmement dure par rapport à la faute. « Vecholkach lama ?» Pourquoi t'es tellement dur, Ribono shel Olam ? Alors le mec, il a dit « En Torah min ha-shamayim ?»« Zehu en lo chelek l'olam haba ?»« Ma kara ?» Ah, c'est l'occasion, c'est pour Gadol.
Si finalement on les a fait rentrer par la porte arrière, comme tu dis, finalement la sentence n'est pas si grande.
Zénachon, 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 mais ça, elle ne l'a pas encore dit, la Gemara. C'est moi qui te l'ai dit. C'est-à-dire, donc la Gemara au début, elle te dit, Vecholkach lama, nous bémet, pourquoi tu m'as dit, celui qui a dit ça, alors il n'a pas. C'est caché, merde. Tzach l'iskor que la Neshama. Donc comment est-ce qu'on peut dire que j'ai, moi, la capacité par ma parole de me détacher de l'éternité, de me détacher du Netzach, tout simplement parce que j'ai dit une bêtise. D'où est-ce que j'ai tellement de puissance? Elama, Yeshuva. La réponse du Talmud est la suivante. Donc qu'est-ce que me dit la Gemara? Tana, à propos de Vekolkach Lama, Tana ou Kafar Betriatametim, Lefichach, Lo Yelochelek Betriatametim. Shekol Midotav Shelakadosh Baruchu, Mida Keneged Mida. Mazé à Sipuraz. Et là, c'est un des fondements du judaïsme. Il y a une histoire qu'on raconte au nom du Rav Reuven Elbaz. De la yeshiva de Or HaChaim, je crois que c'est la yeshiva de Or HaChaim. Le Rav Roman Elbaz, on raconte qu'un jour il marchait dans les couloirs de la yeshiva ou dehors juste devant la yeshiva, et il entend deux personnes se disputer à propos du Olam Haba, Yesh ou Ein Olam Haba. Il y en a un qui dit Yesh, l'autre il dit Ein. Et le Rav Elbaz se retourne en lui disant, eh ben Al Tidag, ne t'inquiète pas, tu n'iras pas à Olam Haba. Et le mec répond, Lama Rav Mekalel Oti. Pourquoi le Rav me maudit? Il dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'y crois pas de toute façon. Et là, Bemida Shadam Moded, Kach Modedim Lo. Et en fait, ça, c'est très important de le comprendre, c'est ça la phrase de base. La phrase de base, c'est pas Mida Keneged Mida. La phrase de base, elle est dans Maseret Sota dans le Talmud, et elle nous dit Bemida Shadam Moded, Modedim Lo. Mazé Amida. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui est très 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 important. C'est une des yesodot du judaïsme. Mazé Amida. Quand on dit que Dieu il fait les choses Mida, Keneged Mida, c'est une histoire de Sachar Va'onesh. On a l'impression de dire que c'est, voilà, lui, il a fait A, et ben, la punition à A, c'est ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas une question de punition. C'est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Mida, dans le langage du Tanakh et du Talmud, ce n'est pas une qualité. Nous, on parle de midot en tant que qualité. Mida, c'est le kli avec lequel on mesure. C'est un mida. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, je sais pas, avec vos enfants, machin, de faire une glace au coca qui a la forme d'une bouteille de coca. Comment on fait ? Très facile. On prend une bouteille de coca, on la met au congélateur, et ensuite on découpe le plastique, une fois que c'est congelé, et on enlève le plastique, et tu as une bouteille de coca glacée. Pourquoi est-ce que j'ai une bouteille de coca ? Bah parce que le cli qui a reçu le liquide, il était en forme de bouteille de coca. Donc le liquide a pris la forme du cli, de l'ustensile. Et donc la phrase de Sota nous dit comme ça, ce que l'homme, il est devenu comme cli, eh bien c'est ça qui va faire en sorte que le monde, c'est comme ça que son monde du moins, se représente. En mala asot. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question que c'est le monde vers lequel il est prêt à s'ouvrir. Donc, par rapport à tout cela, eh bien, on peut comprendre chez, c'est vrai, et que à ce moment-là, on peut très bien comprendre qu'il n'y a pas ici une dimension de Sachar Va'onesh, mais il y a une dimension de je me suis mis moi-même dans la situation qui va, ben, maintenant me revenir dans la tête. J'ai mis ma main dans l'eau, je suis mouillé. Ce n'est pas une punition, c'est une réalité. C'est-à-dire, nous disent nos sages, et dans le Talmud dans Bava Kama, nous dit « Mi she'omer she'akadosh baruch hu vatran, yevateru chayav. » Bah, pose la question Rabbi Chaim de Volozhin, dans Nefesh HaChaim, dans le Char Aleph, il dit « Midat avatranut, c'est bien, c'est midat tova. » Alors pourquoi est-ce qu'on dit que si quelqu'un dit que Dieu il est vatran, yevateru chayav? Parce que oui, entre les hommes, c'est bien d'être vatran. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas vatran. Pourquoi ? Ben parce que si tu as choisi d'aller dans un sens, Dieu, il peut pas dire, bon, ben non, je vais, allez, tu sais quoi, on va pas y aller. Parce que c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Tu as choisi tout seul, comme un grand. Et donc, une fois qu'on a compris cela, hein, alors on dit, ben alors voilà, tu comprends pourquoi le mec qui a dit, En Techiat Hametim, pourquoi Elo ? Parce qu'il s'est créé un monde dans lequel il n'y avait pas de triat amitim. Le fait de dire à Omer en triat amitim, comme on l'avait dit dans le premier cours, c'est son slogan de vie. Et donc cet homme-là s'est fermé à la possibilité de triat amitim. Et de malasot. C'est-à-dire, nous dit le Rambam dans le Perush HaMishnah de Maseret Avot, je cite, Shasachar ve'onesh hem tolada atzmit shel ha'maase. Que la punition ou la récompense sont en fait la résultante directe de ton action. Comme j'ai dit, t'as mis la main dans l'eau, bah faut pas t'exciter que tu es mouillé. C'est pas shoot. C'est-à-dire? Donc, en malasot, mida keneged mida, c'est la base. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, l'homme qui a dit, A Omer en Torah min Hashamayim. Oh, A Omer en Techiat Hametim min Torah. C'est où ? Terminé. Prenons un exemple de littérature française philosophique. Prenons un bonhomme comme Albert Camus, philosophe de l'absurde du XXe siècle. Albert Camus, pour lui, rien n'a d'importance. Rien n'a de réalité éternelle. T'imagines si tu fais rentrer Albert Camus au Olam Haba ? Tu l'as tué, le pauvre. Toute sa vie, il a réfléchi en disant « En Olam Haba ». Et toi, tu vas lui faire rentrer dans l'Olam Haba. C'est l'Olam Haba. Donc, en fait, c'est de cela qu'on parle. Quelqu'un qui se ferme à l'éternité, eh bien, l'éternité est fermée à lui. Tout simplement. Donc, à la question Vekolkar Lama, c'est pas shoot. Parce que c'est ce que toi, tu as décidé de t'amener sur toi. Ok? Et le Talmud va essayer de me donner une explication de ce que je viens de vous dire par une histoire. Alors, quelle est l'histoire? Iné. D'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Minayin shekol midotav shel hakadosh baruch hu mida keneged mida. D'où on apprend cela? Sheneemar vayomer Elisha shimu devar Hashem vegomer kaet machar se'a soled beshekel ve'sa'ataim tzeorim beshekel beshar shomron. V'ktiv vayan shalish asher lemelech nish'an al yado et ish ha'elohim vayomar hine Hashem oseh arubot bashamayim ha'yeh hadavar hazeh. ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. הוא כתיב, ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער, וימות. Donc, de quoi on est en train de parler? On est en train de raconter une histoire qui se passe dans le livre de Melachim, dans Melachim Bet, au chapitre 7. Et là-bas, la situation est terrible. Là-bas, c'est une époque de famine terrible dans le peuple juif, puisque le royaume d'Israël est en guerre contre Aram. Et il y a un siège de la ville de Shomron, de la capitale. Il n'y a plus rien à manger. Le Malchut Israël est en train de perdre complètement. Et ça arrive à un tel point de non-retour qu'il y a deux femmes qui viennent voir le roi Achav en lui disant « Voilà, c'est pas juste. Les deux, on s'était mis d'accord que hier, on mange son fils. Et aujourd'hui, on mange mon fils. » Et ben voilà, hier, on a mangé mon fils, comme on avait dit, et aujourd'hui, elle refuse de me donner son fils. Et vous imaginez de quoi on parle? On est en train de manger les carcasses de nos enfants décédés parce qu'il y avait la famine. C'est une situation terrible. Terrible, terrible, terrible. Le roi Achav, il fait venir le prophète Elisha en disant « C'est de ta faute, c'est toi le prophète, fais quelque chose !» Et là, Elisha leur dit « Vous allez voir, demain, il y aura tellement à manger que une grande mesure d'orge, eh bien, se vendra un shekel. Et c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Là, demain, tu me dis, il y aura tellement que ça coûtera un shekel pour avoir, je sais pas moi, des tonnes d'orge. Ah, pas possible. Et à ce moment-là, Vayan, Shalish, Vayomar, le Shalish, c'est-à-dire le numéro 3 du royaume, il a dit, mais c'est pas possible. Quoi, Dieu, il va faire des miracles comme ça? Mazé. La suite de l'histoire, on la connaît. Il y a quatre lépreux qui sont à l'extérieur du camp et qui voient qu'il ne se passe pas grand-chose dans le camp de ceux qui font le siège. Ils décident de rentrer dans le camp d'Aram et ils voient qu'il n'y a plus personne. Parce qu'entre-temps, Dieu, il a fait sortir des bruits énormes du ciel et les Araméens, ils sont persuadés qu'on est là et qu'on leur a fait la misère. Qu'on est prêt à les massacrer, et donc ils s'en vont. Et ils s'en vont tellement vite qu'ils laissent aussi toute leur intendance. Et donc, t'imagines l'intendance d'une armée entière qui fait un siège d'une capitale. Et donc les quatre lépreux viennent dire au roi, voilà, il y a plein à manger dans le camp en face. Et à ce moment-là, le peuple entier se rue vers la porte de Shomron, à Shalish, se tient là-bas, et le peuple juif le piétine. Et le tue. Et ainsi, les paroles de Elisha se réalisent quand il lui avait dit « Tu verras que ce que je dis est vrai, mais tu ne pourras pas en profiter. » Et là, il faut se poser plusieurs questions parce que c'est l'occasion pas shoot. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Pourquoi est-ce que le Shalish, il ne croit pas à tout ça? Pourquoi est-ce que le Shalish, il n'y croit pas? Quoi? Il sait pas que Dieu, il peut faire des miracles? Bémet, je vous pose la question. Bien sûr qu'il sait. Mais il nous dit le Sefer Haridim, il nous dit la chose suivante, c'est extraordinaire, il dit, bien sûr que le Shalish, il savait que Dieu, il peut faire des miracles. Mais il pensait pas que Dieu, il ferait des miracles pour eux. C'est-à-dire que Dieu, il fasse des miracles quand on est bien, ça baba. Mais il dit, dans une génération, on est tellement pourri. Et on fait tellement le mal à Vodazara, machin, à une génération comme ça, Dieu, il va amener la Géoula. Ken. Ken, parce que Akadosh Baruch Hu, il a ses projets à lui. Et donc, c'est pour ça que le Shalish, qui était incapable de s'ouvrir à la dimension de l'éternité du peuple juif, eh bien, il ne peut pas faire partie de l'éternité. Mida, Keneged, Mida. Ok ? C'est clair ? Yovi. Alors, on peut continuer. Imke Ezra. Vedilma, la Gemara, elle dit, ouais, j'entends ce que tu me dis, tu m'as bien expliqué la notion de Mida, Keneged, Mida, mais oulai, c'est pas ça que ça veut dire. Vedilma, kilelat Elisha garmalei. D'amar Rabbi Yehuda v'amar Rav, kilelat Chacham, afilu al-chinam iba. Il dit non, peut-être que c'est pas à cause de Mida Keneged Mida qu'il est mort le Shalish. Peut-être c'est simplement à cause de la malédiction de Elisha. Puisqu'on sait bien que la malédiction d'un prophète ou d'un Chacham, bah, ça marche. Nous, Zenachon, Bemet, ça marche. Mais la Gemara, elle répond tout de suite à sa propre couchée. Elle dit non, mais Imken, Lirtov, Kara, Vayermiseu, Vayamot, Mai Bashar, Al Iske Shar. La Gemara, elle dit non, mais. J'entends bien, mais c'est pas possible en fait que ce soit à cause de Elisha, parce qu'il a marqué dans le texte qu'il est mort dans la porte d'entrée, et donc ça veut dire que c'est par rapport à ce qui a été dit à la porte d'entrée. Donc non, c'est pas une question de Elisha, de Klala, machin, c'est une question de Mida, Keneged, Mida tout simplement. Donc les amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que la dimension avec laquelle je perçois le monde, c'est la dimension avec laquelle Dieu se dévoile à moi. Mais ça nous donne une responsabilité énorme. Ça nous donne une responsabilité fantastique de dire que c'est en fait moi qui vais déterminer comment, ou du moins à quel niveau, il va y avoir un dévoilement de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ce que disait Rabbi Menachem Mendel de Kotzk quand il disait que Dieu y rentre là où on le laisse rentrer. Là où on ne le laisse pas rentrer, ben il ne rentre pas. Donc maintenant qu'on a dit ça, il ne nous laisse plus qu'à ouvrir la porte et de laisser Akadosh Baruch Hu rentrer. Et là, on va pouvoir rentrer dans les premières agadotes. Dans les premières agadotes. Et qu'est-ce que c'est que ces premières agadotes ? Alors, je vais vous faire un spoiler de ces premières agadotes et je vais vous dire tout de suite que je m'excuse auprès de vous qu'on va devoir finir le cours plus tôt que d'habitude pour une raison très simple. Voilà, comme ça vous êtes tous au courant de ma vie. Le père de ma femme est décédé cette nuit du corona en Angleterre. Résultat des courses, donc ma femme elle est partie en Angleterre, nanana. Mais je dois dans 5 minutes parler avec la Chevra Kadisha. Parce que c'est un grand balagan de savoir est-ce qu'on l'enterre là-bas, est-ce qu'on le ramène ici, et si on le ramène ici, comment, qui que quoi, parce que la famille elle est pas là, donc Bekitsour, c'est pour ça que je dois terminer dans 5 minutes, je suis désolé, qu'à cela ne tienne, de toute façon, ça correspond à ce que Eli m'avait demandé, c'est qu'on n'entame pas un sujet et qu'on le finisse pas dans le même cours. Et donc là c'est très bien, comme ça on aura terminé le sujet de Mida Keneged Mida. Et la semaine prochaine, on pourra commencer et terminer les 8 explications de qu'est-ce que c'est Triat Hametim Minatora. Où maintenant, on va commencer à rentrer dans la Haggadot et on va voir plein de gens qui viennent et qui disent « Ouais, mais c'est pas vrai que Triat Hametim, c'est Minatora. » Il va falloir donner à chaque fois une réponse de pourquoi c'est Minatora. Je commencerai simplement en spoiler de ça, en disant, et je pense qu'on l'avait évoqué rapidement, ce que Manitou disait, mais ça vient pas de Manitou. En l'occurrence, ça vient de Rabbi Shmuel di Medina. Vous vous rappelez de Rabbi Shmuel di Medina ? Rabbi Shmuel di Medina était l'élève de Rabbi Yosef Taititzak. Rabbi Yosef Taititzak, bien sûr, très connu, tout le monde le connaît. Je te vois sourire, Monsieur Léon. Monsieur Léon, je te vois sourire. Parce que tu es d'accord avec moi, tout le monde le connaît, bien sûr. Rabbi Yosef Taititzak, c'est un contemporain de Rabbi Yosef Karo, et c'est le seul de qui Rabbi Yosef Karo dit qu'il a peur de lui. Mipeat Gdulato. Donc c'est pas n'importe qui, et il est en plus un des ancêtres de Binyamin Zeev Herzl. Donc pas un petit joueur le bonhomme. Eh bien qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shmuel di Medina ? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Il nous dit Mazé a omer en techiat ameti mina Torah. Mi shea Torah shelo lo dea la chayot metim. El lo chelek lo lamaba. Mi shea triat ametim zelo mina Torah pour lui. Ça veut dire quoi? Il dit bah oui. Tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Rechaim, même dans leur vivant, ils sont appelés morts. Donc c'est quoi Triat Ametim? C'est quand tu lui fais faire tchouva. C'est pas shoot. Donc si toi, ta Torah, elle n'est pas capable de la Chayot Metim, bah, tu ne sers à rien. Seulement cette réponse-là qui est très forte, eh bien, elle ne répond pas aux différentes couchiotes que vont apporter plein de gens. Et on va avoir 8 couchiotes qui vont être amenées par différentes personnes successives de dire mais moi je pense pas que et si je dois vous spoiler, eh bien je vous dirai la chose suivante. La première question vient des Hébreux, la deuxième question vient des Juifs, la troisième question vient des Juifs qui sont devenus chrétiens, la quatrième question vient des Romains. La cinquième question vient des Kushim, des Koutim, de ces peuples qui ont essayé de se greffer au Am Israël, mais en fait aucun rapport. La sixième question, elle va venir des rois, des différents dirigeants du monde. La septième question, elle va venir des rois d'Israël, et la dernière question, elle va venir des philosophes. Chaque catégorie a un problème avec la notion de Triat Ametim, et la réponse qu'on va donner à chaque fois va être une réponse adaptée à chacune de ces différentes personnalités. Mais ça va ? Et donc, en cela, on va tout simplement rentrer dès la prochaine fois dans les agadotes véritables. On a terminé la Mishnah et donc maintenant on peut rentrer dans les mamash agadotes du Perek Relek en se rappelant bien ce qu'on a étudié ce soir, que c'est moi qui détermine la façon dont Dieu va se dévoiler dans le monde. Plus je lui laisse de la place, plus mon kli il est grand et il laisse passer le Netzach, plus le Netzach, l'éternité, va passer. Et plus ce kli est fermé, plus je me ferme à Dieu et plus, eh bien, Dieu ne passe pas. Ça nous donne une responsabilité énorme et c'est à nous d'ouvrir en fait toutes les portes. Mais Saïder, voilà, désolé de ce cours de 20 minutes plus tôt.
Bon courage.
Mais Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on se rattrape.
Je peux poser une question?
Oui, bien sûr. Vas-y.
Est-ce que la manière dont tu expliques Mida Keneged Mida, est-ce que c'est en parallèle de Onesh, de Sachar et Onesh, ou ça le remplace complètement?
Non, Sachar et Onesh, c'est ce qu'on est en train de te dire. En fait, ça veut dire qu'il faut repenser complètement Sachar Vahonesh. Qu'en fait, Sachar Vahonesh, c'est pas bien de parler comme ça. Ça nous induit en erreur de parler de Sachar Vahonesh. C'est ce que dit, par exemple, le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, il nous dit, Rabbi Yishayahu Alevi Horovitz, il nous dit que, be'etzem, chaque action, mitzvah ou avera, elle porte en elle, pour la mitzvah, le sachar, et pour la avera, le honesh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une punition suite à. C'est le monde que tu as créé en faisant ça, ben c'est ça. C'est gramma. C'est tout simplement gramma. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de la main dans l'eau. C'est pas une punition qu'elle est mouillée. C'est que la réalité que tu as fait, que tu as créé en mettant la main dans l'eau, fait que maintenant t'es mouillé. Zébayesh. Ça va? Yofi! Eh bien, les amis, alors on se retrouve la semaine prochaine. Désolé, encore une fois, mais on se rattrapera la semaine prochaine.